Je passe la parole à Bénédicte Legrand, qui va se présenter.
Bonjour. Donc, d'abord, un grand merci à l'association Spécif Campus et à la Société Informatique de France de me donner cette opportunité de vous parler un petit peu aujourd'hui de carrière académique et notamment des carrières d'enseignant-chercheur. Donc, je suis moi-même enseignant-chercheur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et je suis aussi élue au CNU en section informatique, section 27, sur la mandature en cours.
Excuse-moi, je t'interromps une seconde. Juste pour rappeler la procédure, si vous avez des questions, vous les posez par écrit au secrétaire de votre salle qui va les relayer et nous, on les posera à l'oral. Donc, vous les posez dans votre salle.
C'est tout bon.
Désolé.
Alors, j'ai une présentation avec pas mal de transparents. L'objectif était de... alors, est-ce que tout le monde voit bien les transparents ou pas?
Et je lance les transparents.
Alors, on va partager les transparents.
Et vous devriez voir...
Est-ce que vous voyez bien les transparents? C'est bon? Super. Voilà, l'idée, c'est que j'ai une présentation qui ne va pas forcément être très sexy du point de vue des transparents, mais l'objectif, c'était que toutes les informations y soient, si vous avez besoin d'y faire référence. Donc l'idée, c'est de vous parler de la carrière d'enseignant-chercheur, plus particulièrement de maître de conférence. D'abord, vous décrire ce que c'est que le métier, puis, si ça vous intéresse toujours, de savoir comment candidater pour devenir enseignant-chercheur. Et donc, les deux étapes de qualification et de concours. Alors, tout d'abord, le métier. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un enseignant-chercheur, ou plus précisément, qu'est-ce que c'est qu'un maître de conférence par rapport à un enseignant-chercheur? Donc, un enseignant-chercheur, c'est quelqu'un qui fait de l'enseignement et de la recherche. Et ce qu'il y a de particulier au maître de conférence, c'est que ce sont des fonctionnaires titulaires de la fonction publique. Donc, on peut être enseignant-chercheur dans des écoles privées, par exemple, mais pour être maître de conférence, on est dans le secteur public. Alors, pour savoir quels sont les enseignements, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, justement, du domaine public, vous pouvez aller regarder sur le site du ministère. Donc, je vous ai mis les URL à chaque fois. Et donc, sur cette page, vous avez la liste de tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel, professionnel, ainsi que des EPA. Donc là, vous trouverez les universités, les INSA, etc. Enfin, tous les endroits qui relèvent de ce ministère. Alors maintenant, si on parle un peu plus précisément de la mission d'un maître de conférence, là aussi, je me suis appuyée sur ce que disent les textes au niveau du ministère. Et donc, la mission d'un maître de conférence et d'un enseignant-chercheur en général, c'est-à-dire maître de conférence et professeur des universités, c'est de faire de l'enseignement et puis de contribuer également au développement de la recherche fondamentale appliquée. Donc, tout cela, c'est détaillé. Donc, en termes d'enseignement, bien sûr, il y a les cours dispensés devant les étudiants. Donc, en rythme de croisière, pour un maître de conférence, c'est 192 heures équivalent TD au niveau de la charge statutaire, plus tout ce qui est lié à l'administration de l'enseignement, gérer le contrôle des connaissances, le suivi des stages, etc. Donc il y a tout un tas de missions qui gravitent autour de l'enseignement. Pour ceux parmi vous qui ont fait des missions d'enseignement en parallèle de leur doctorat ou ceux qui sont à TER, la mission d'enseignement, elle est très similaire. On peut avoir aussi de la coordination d'équipes pédagogiques, en plus. Au niveau de la recherche, eh bien, c'est continuer ce que vous faites en doctorat ou ce que vous avez fait en doctorat, et donc contribuer, avoir des contributions de recherche, et puis les communiquer, les valoriser. Alors, en termes, donc, si je détaille un tout petit peu plus, puisque là on parle des carrières en informatique, donc qu'est-ce que ça signifie, l'enseignement en informatique? Ça veut dire enseigner dans des thèmes de la discipline informatique et à des publics qui vont être diversifiés, puisque l'informatique, il n'y a pas que des informaticiens à qui on enseigne. Il y a toutes les tâches de réalisation des supports d'enseignement, donc les polis, les livres éventuels, les sites en ligne, et puis la coordination d'équipes pédagogiques. Bon, au niveau de la recherche, là pour le coup, si vous êtes titulaire ou en voie d'obtenir un doctorat, vous avez une assez bonne idée de ce en quoi ça consiste. Donc, il y a mener des travaux de recherche, communiquer avec d'autres chercheurs, publier vos résultats, participer à la diffusion des résultats de la recherche. Et puis, l'encadrement, Alors, ça peut être de l'encadrement doctoral, ça peut être de l'encadrement de stage de recherche. Et enfin, il y a un troisième volet, donc, qui est peut-être un petit peu moins connu tant qu'on n'est pas plongé dans ce métier-là, c'est le volet des responsabilités collectives, donc qui peuvent être du côté enseignement comme du côté recherche. Donc, c'est tout ce qui relève de l'administration, la gestion des contrats de recherche, le maintien, l'établissement et le maintien de relations industrielles, tout ce qui est lié au matériel et puis au logiciel. Voilà, donc tout ce qui relève des tâches collectives au niveau des laboratoires et au niveau des composantes d'enseignement. Alors, ces trois volets enseignement, recherche et tâches collectives sont des volets qui sont importants parce que ce sont des volets qui seront évalués pour savoir si vous êtes ou non qualifié pour devenir maître de conférence. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après. Alors, au niveau de la carrière, donc c'est important aussi quand on se lance sur ces métiers-là de savoir exactement ce qu'il en est. Et donc, comme on est fonctionnaire de la titulaire de la fonction publique, la carrière, la rémunération, tout ça, c'est vraiment établi très clairement. Donc, quand vous êtes maître de conférence, vous pouvez appartenir à deux grades différents. Donc, il y a une classe normale avec 9 échelons, et puis il y a une hors classe, qui a maintenant un nouvel échelon exceptionnel. Donc, au niveau de l'évolution de carrière, à l'intérieur de la classe normale, vous allez évoluer à l'ancienneté. Et donc, pour grimper des échelons, ça se fait à l'ancienneté. Par contre, pour passer hors classe, ou pour passer hors classe échelon exceptionnel, là, il faudra faire une demande, soumettre un dossier. Donc là, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Donc là aussi, si vous avez besoin de renseignements et de précisions là-dessus, je vous indique à chaque fois les URL avec les sites de référence pour que vous ayez ces informations-là. Alors, pour donner une idée quand même, en termes de traitement brut, donc ça c'est l'indemnité de base brute, en début de carrière, un maître de conférence va toucher un petit peu plus de 2000 euros. Après 2 ans, à peu près 2400 euros, en sachant que les activités scientifiques et pédagogiques contractuelles qui ont été effectuées avant le recrutement sont maintenant prises en compte. Donc tout le monde ne démarre pas au premier échelon de maître de conférence. Vous pouvez démarrer avec un petit peu d'ancienneté si vous valorisez les choses que vous avez faites avant. Et donc pour info, le dernier échelon de la classe normale, il est à un peu plus de 3800 euros. Et le dernier échelon de la hors-classe, c'est-à-dire la hors-classe exceptionnelle, qui est apparue récemment, est à quasiment 5000 euros. Donc voilà l'éventail des salaires pour les maîtres de conférence. Alors, est-ce que quand on est maître de conférence en informatique, on l'est jusqu'à la fin de sa carrière? Alors, c'est possible, puisque c'est un poste de fonctionnaire titulaire, donc il est possible de rester maître de conférence pendant toute sa carrière, et on voit que ça peut être quelque chose d'attractif si on est avec les échelons qui ont augmenté pas mal. On peut aussi choisir de passer le concours pour devenir professeur des universités, ou alors aussi choisir de concourir à un poste de directeur de recherche. Donc ça, ce sera l'orateur suivant. Enfin, là, on part sur les carrières plus de recherche. Alors, je vous ai montré un petit peu ce que c'était, donc c'est très très succinct bien sûr, ce que c'était que la mission d'un maître de conférence. Maintenant, comment devenir maître de conférence? Alors, il y a 2 étapes. Donc, pour pouvoir candidater sur un concours de recrutement de maître de conférence, il faut d'abord obtenir la qualification. Donc, il faut être qualifié aux fonctions de maître de conférence, et cette qualification, elle s'obtient auprès du Conseil national des universités, le CNU. Et donc, pour être qualifié aux fonctions de maître de conférence en informatique, il faut s'adresser à la section 27 du CNU, c'est-à-dire la section informatique. Une fois que vous êtes titulaire de la qualification, alors, vous pouvez candidater sur un concours de recrutement dans un des établissements qu'on a vu tout à l'heure. Donc vraiment, ces 2 étapes sont essentielles. La qualification d'abord, pour pouvoir concourir ensuite pour un poste de maître de conférence. Donc là, du coup, j'attaque le deuxième point de la présentation sur toutes les procédures liées à la qualification. Donc vous allez voir, je vais décrire des choses, un processus très carré. Il y a un processus à suivre pour ça, Donc là, je vous donne toutes les informations pour pouvoir le faire. Donc, pour être qualifié en informatique, il faut demander sa qualification à la section 27. Et attention, la qualification n'est pas une formalité. Donc c'est vraiment, d'abord c'est quelque chose qui est indispensable. Sans cette qualification, vous ne pouvez pas candidater sur un poste de maître de conférence. Et il faut prendre le temps de faire son dossier proprement. Donc ça, c'est les points que je vais détailler par la suite. Une fois que vous avez votre qualification, elle est valable pendant 4 ans. Il est possible de demander une nouvelle qualification au bout de 4 ans, si vous n'avez pas obtenu de poste et puis que vous souhaitez continuer à candidater. Donc, il y a tout ce qui concerne la qualification, c'est précisé dans un arrêté dont je vous ai donné le lien ici. Alors, un petit mot sur ce qu'est le Conseil national des universités, donc le CNU. C'est une instance qui est consultative et décisionnaire sur certains points, qui regroupe les 57 sections dont dépendent l'ensemble des 49 500 enseignants-chercheurs en France. Sachant qu'en informatique, on est la plus grosse section, puisqu'il y a 3500 enseignants-chercheurs qui relèvent de la section 27. Donc, dans chaque section, il y a un certain nombre de personnes qui sont élues ou nommées. Donc, 2/3 d'élus, 1/3 de nommés. Et nous, comme on est une grosse section, en section 27, on a 48 binômes de titulaires suppléants, élus pour un mandat de 4 ans, élus ou nommés pour 4 ans. Et donc, au niveau des missions du CNU, donc celle qui nous intéresse pour l'instant, c'est le CNU qui délivre la qualification aux fonctions de maître de conférence ou de professeur des universités, et donc pour la section 27 en informatique. Le CNU est aussi chargé d'attribuer une partie des semestres de CRCT. Donc si au cours de votre carrière, vous souhaitez prendre un congé pour recherche ou conversion thématique, la moitié des semestres qui sont attribués au niveau national le sont par le CNU. De la même façon, le CNU attribue 50% des avancements de grade, c'est-à-dire les promotions. Donc, je vous disais tout à l'heure que pour passer de la classe normale à la classe hors classe de maître de conférence, il fallait faire une demande. Et bien, cette demande, elle passe au CNU. Et donc, il y a 50% des demandes d'avancement qui seront données par le CNU et l'autre moitié par les établissements. Le CNU est aussi chargé de donner un avis sur les demandes de primes d'encadrement doctoral et de recherche, les PEDR. Donc ces primes sont données au niveau local par les établissements, mais les établissements qui le souhaitent peuvent demander au CNU de donner un avis sur les candidatures. Et enfin, depuis peu de temps, le CNU est aussi chargé de la procédure de suivi de carrière des enseignants-chercheurs. Voilà, donc pour avoir toutes les informations officielles sur la section 27 du CNU, il y a un lien que j'ai indiqué sur ce transparent-là. Donc là maintenant, je vais parler beaucoup plus précisément de la procédure de qualification aux fonctions de maître de conférence en section 27. Donc là, j'ai pris quelques captures d'écran du site du CNU 27, donc sur l'URL qui est tout en bas du transparent. Donc si vous voulez avoir une présentation sur le CNU, le processus de qualification et quelques statistiques, vous pouvez récupérer le document qui est intitulé « Pour les doctorants » dans la section gauche qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être qualifié aux fonctions de maître de conférence en section 27 ? C'est une demande de qualification en informatique, donc l'ancrage en informatique, il est essentiel. Les dossiers sont évalués sur 3 critères. Deux critères essentiels, disons. L'enseignement en informatique, la recherche en informatique. Donc, et bien sûr, être titulaire d'un doctorat en informatique. Donc, quand vous faites votre dossier de qualification, l'objectif, c'est de démontrer que vous êtes apte à exercer le métier d'enseignant-chercheur en informatique. Et donc, d'être efficace sur les 3 volets que j'ai mentionnés au tout début, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche et une volonté de vous impliquer dans des tâches collectives. Donc, les points indispensables pour obtenir une qualification, c'est avoir un doctorat en informatique. Il est très important d'indiquer la composition de votre jury de thèse. Je dis ça notamment pour les candidats qui pourraient avoir des sujets de doctorat pluridisciplinaires. Ce sont des cas qui sont compliqués à juger au niveau du CNU. Et donc, ce que va regarder la section 27, c'est est-ce que vos travaux apportent quelque chose au domaine de l'informatique. Donc, si vous avez un sujet de thèse pluridisciplinaire, c'est très bien, mais veillez lors de votre soutenance de thèse à avoir dans votre jury de thèse des personnes, des enseignants-chercheurs ou des chercheurs qui relèvent de la section informatique. Donc ça, ça montrera que vos travaux sont ancrés en informatique. Alors, le CNU regarde aussi si vous avez une expérience d'enseignement en informatique. On sait que ça n'est pas toujours possible d'enseigner en parallèle de la thèse. Il y a certains types de financement qui ne vous donnent pas la possibilité d'enseigner pendant votre doctorat. Essayez dans ce cas-là, donc justifiez-le, montrez votre motivation, ça c'est très important, et essayez d'avoir une expérience d'informatique, par exemple, l'année suivant votre doctorat. Dans ce cas-là, en donnant des vacations ou en essayant d'être ATE, par exemple. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus loin. Et puis, il est important de montrer aussi que vous faites de la recherche de qualité en informatique, et donc la liste de vos publications est essentielle. Sur ce point-là, il est vraiment important de viser la qualité plus que la quantité. Donc, pour vous donner une idée, pour être qualifié en section 27 du point de vue de la recherche, ce qui est attendu, c'est d'avoir au moins une publication dans une conférence ou une revue internationale de bon niveau en informatique. Donc, plutôt que de multiplier les publications dans des endroits qui sont peut-être moins renommés, il vaut mieux viser une bonne publie. Donc, une bonne publie en informatique peut suffire pour vous qualifier. Alors, attention, tous les ans, on a des candidats qui loupent le coche. La demande de qualification se fait en deux étapes. Il y a une première étape entre septembre et octobre, qui est l'étape de déclaration de candidature ou de préinscription. Donc ça, c'est essentiel de ne pas louper cette étape-là, parce que sinon, vous ne pouvez plus candidater sur la qualification cette année-là et vous perdez un an. Alors là, je vous ai indiqué les dates de 2018. Ça varie un petit peu chaque année, donc attention de bien vérifier les dates chaque année. Alors cette étape de préinscription, elle sert au niveau du CNU pour pouvoir commencer à affecter les rapporteurs, puisqu'on a beaucoup de dossiers chaque année. Il y a plus de 600 dossiers à examiner, plus de 600 demandes de qualification en section 27, donc c'est important de pouvoir s'organiser un petit peu en amont. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le dépôt de votre dossier en tant que tel sur Galaxy. Donc ça, je vais vous en parler dans une minute. Ça, c'est le portail qui sert à tout ce qui relève de l'enseignement et de la recherche. Donc là, pour cette année, la date de clôture pour déposer votre dossier, c'est le mardi 18 décembre à 16h. Attention, c'est 16h. Et maintenant, le dossier de qualification est 100% dématérialisé. Donc il n'y a plus besoin d'envoyer des courriers comme c'était le cas par le passé. Attention de bien fournir toutes les pièces qui sont demandées et d'anticiper les délais nécessaires. Alors, juste pour vous montrer donc ce qu'est Galaxy. Donc Galaxy, je vous ai mis l'URL ici. C'est un portail qui est très utile quand on veut devenir enseignant-chercheur ou une fois qu'on l'est, puisque c'est par ce portail-là que vous allez accéder aux demandes de qualification, mais également au concours de maître de conférence, aux demandes d'avancement de grade, c'est-à-dire les promos, les demandes de congés de reconversion ou de recherche, les primes, le suivi de carrière, etc. Donc ce site-là, c'est vraiment un site qui est central quand on veut rester dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Et donc à partir de cette page-là, vous avez notamment accès au calendrier chaque année. Donc là, attention, donc là on est bien dans le calendrier 2019, même si les étapes se font dès l'automne de l'année d'avant. Alors, le contenu du dossier de qualification, donc là j'ai listé les pièces qui sont nécessaires, mais là encore, l'année où vous candidatez, il est essentiel d'aller chercher les informations là où elles sont. Donc là, c'est sur le site de la section 27 du CNU. Donc, il y a des pièces qui sont obligatoires pour toutes les sections et il y a des pièces qui sont demandées en plus par la section 27. Mais au total, là, ce sont toutes les choses dont vous avez besoin. Donc, la copie de votre diplôme de doctorat, si vous venez de soutenir et que vous n'avez pas encore le diplôme, vous pouvez demander une attestation provisoire de réussite. Mais attention, ce n'est pas une attestation de soutenance. Là, il faut vraiment une attestation de réussite du diplôme. Si ce sont des diplômes qui ne sont pas en français, il faut les traduire en français. Sinon, cette année, on a eu des soucis avec des dossiers qui étaient considérés comme non éligibles, comme irrecevables, parce que les diplômes n'étaient pas traduits. Ensuite, il vous faut aussi le procès-verbal de soutenance, qui va contenir le rapport de soutenance, plus la liste des membres du jury et leur signature. Et là aussi, il faut le traduire en français. La section 27 demande aussi que vous joigniez à votre dossier les rapports de pré-soutenance. Donc pour nous, il faut les rapports de vos rapporteurs plus le rapport de soutenance. Et ça, c'est indispensable, sinon le dossier ne peut pas être examiné. Et à toutes ces pièces un petit peu administratives, il faut ajouter un CV. Et ce CV, c'est là où vous pouvez démontrer que vous avez les aptitudes à être enseignant-chercheur en informatique. Donc, tout ce qui relève de votre formation, de vos diplômes d'informatique, vos activités d'enseignement, vos motivations, votre recherche en informatique, éventuellement, si vous en avez déjà assuré, des charges collectives, et puis une liste des publications. Alors, j'ai indiqué une liste ordonnée des publications. Donc ça, ce sont les demandes au niveau du CNU. Ça signifie qu'il faut classer vos publications par type, c'est-à-dire mettre ensemble les publications dans des revues d'audience internationale, dans des revues d'audience nationale, les conférences internationales, les conférences nationales, les workshops ou ateliers internationaux, nationaux, les chapitres de livres. Donc ça, c'est important de bien distinguer ça, parce que ça permet d'avoir une bonne lecture, et puis ça montre aussi que vous avez compris qu'il y avait différents endroits pour publier. Quelque chose qui est très conseillé, c'est de joindre à votre dossier des éléments qui attestent des choses que vous avez dites. Donc n'hésitez pas à demander des attestations pour vos heures d'enseignement et des lettres de recommandation éventuellement de la part de vos responsables, de façon à ce que tout ce que vous mettez dans votre dossier soit attesté. Ensuite, il est demandé de joindre des extraits, des exemplaires de travaux ou de publications. Donc pour la qualification maître de conférence, c'est 3 articles maximum. Attention d'en mettre au moins un. Depuis que la procédure est dématérialisée, on a eu des mauvaises surprises et certains candidats qui ne souhaitaient pas joindre de travaux ont vu leur dossier retoqué comme irrecevable parce qu'il manquait quelque chose. Donc mettez au moins un article, veillez dans la procédure dématérialisée à mettre des documents à chaque endroit où on vous en demande, puisqu'il y a toute une partie automatique à laquelle nous on n'a pas accès. Donc ça c'est vraiment important. Donc toutes ces choses-là sont accessibles à partir du site du CNU 27 sur quelque chose qui s'appelle Note au candidat. Et donc dans ce document-là, il est très détaillé, vous aurez vraiment toutes les informations sur le contenu de votre dossier. Alors pour donner quelques chiffres sur les demandes de qualification de l'année dernière en section 27, il y a eu 693 pré-inscription, donc des déclarations de candidature, sachant qu'il y a eu une centaine de dossiers qui finalement n'ont pas été complétés. Donc ça peut être le cas, par exemple, de doctorants qui n'ont pas soutenu leur thèse avant la date limite. Et ça pose pas de problème. Enfin, voilà, c'est pas grave. Le tout, c'est de prévenir vos rapporteurs, mais voilà, bon, ça c'est possible, on sait que ça arrive tous les ans. Par contre, attention, on a eu des dossiers qui ont été jugés irrecevables, parce qu'il manquait des pièces. Donc ça, il faut faire très très attention. Depuis que la procédure est complètement dématérialisée, on n'a pas beaucoup de recours. On a essayé de récupérer les dossiers, donc ça c'est Annie Contenvert au niveau du CNU 27 qui a bataillé pour récupérer des dossiers qui étaient jugés irrecevables, mais c'est vraiment très compliqué. Donc soyez vraiment très très vigilants. Et sinon, sur les 566 dossiers qui ont été traités, il y en a eu 71,3% qui ont été qualifiés, 28,7% qui ont été non qualifiés et 30% qui ont été considérés comme hors section, c'est-à-dire jugés comme ne relevant pas du domaine de l'informatique. Alors pour information, il y avait 30% de dossiers faits par des candidates et on retrouve la même proportion de qualifiés non qualifiés que sur les proportions globales. Alors, je vais arriver à la dernière partie. Donc, Vous voulez devenir maître de conférence. Vous avez votre qualification aux fonctions de maître de conférence en informatique. Comment candidater maintenant? Comment obtenir un poste? Donc là, on passe à l'étape du concours. Alors, pour le concours, il faudra utiliser la même plateforme, donc le même portail Galaxy, sauf que cette fois, au lieu d'aller dans la section qualification, ce sera dans la section recrutement et recrutement d'enseignants-chercheurs. Donc là, pareil, je vous ai mis l'URL aussi pour accéder à tout ça. Alors, la façon dont ça fonctionne pour le concours de recrutement, la plupart des postes, l'immense majorité des postes, sont publiés dans ce qu'on appelle la campagne de recrutement synchronisée. Et là, il faut faire très attention, une fois encore, aux échéances du calendrier. Donc ça, je vais détailler un petit peu par la suite. Il y a quelques offres qui sont publiées au fil de l'eau, c'est-à-dire en dehors de ce calendrier synchronisé, mais elles sont beaucoup, beaucoup moins nombreuses. Donc tout ce que je vais vous dire là concerne essentiellement la session synchronisée. Donc je vous parlais de calendrier. Donc là, par exemple, pour cette année, donc pour les personnes qui vont candidater, donc ceux qui vont demander leur qualification avant mi-décembre, donc l'ouverture de l'enregistrement des candidatures va se faire le 21 février à 10h. Et la clôture des candidatures le 26 mars. Ensuite, les candidats auront jusqu'au 28 mars 16h pour envoyer leur dossier. Alors, les processus ne sont pas les mêmes pour tous les établissements. Il y a des établissements qui ont des procédures complètement dématérialisées. Il y en a où il faut encore envoyer des documents papier. Donc ça, il faut être très vigilant sur ce qui est demandé dans chaque établissement. Ensuite, donc, entre mars et juin, les candidatures sont examinées. Il y a des admissibilités, il y a des auditions. Et il faut penser à se reconnecter à Galaxy pour prendre connaissance des décisions d'établissement et exprimer les vœux d'affectation dans une université ou dans une autre. Et les résultats définitifs seront publiés le 17 juin 2019. Donc là, le calendrier, donc là, ce qu'il faut absolument respecter, l'enregistrement des candidatures entre le 21 février et le 26 mars, sans quoi vous ne pouvez pas candidater sur un poste. Alors, pour le premier concours, donc là, il existe plusieurs conférences, mais celui qui est pertinent pour les personnes qui sont titulaires doctorat en informatique, pour la plupart, c'est le premier concours. Donc, si vous voulez des détails au niveau des textes, vous pouvez aller voir ici. Mais donc, pour ce concours qui regroupe la plupart des cas qui nous concernent ici, les pièces à fournir, vous verrez qu'elles sont très similaires à ce qui est demandé pour la qualification. Donc il y a un papier administratif qui est la déclaration de candidature imprimée depuis Galaxy, datée, signée, la copie d'une pièce d'identité, le justificatif de diplôme de doctorat, un curriculum vitae, et puis le rapport de soutenance. Mais je dirais que là aussi, vous avez intérêt à mettre des attestations, des lettres de recommandation, etc. Ça, les pièces qui sont indiquées sur les sites officiels sont les pièces minimales pour que votre dossier soit éligible. Mais vous avez toujours intérêt dans vos candidatures, que ce soit pour la qualification ou pour un recrutement, à démontrer que vous connaissez le métier et que vous avez les aptitudes pour. Et si vous avez des attestations qui supportent votre dossier, bien sûr, il faut les mettre aussi. Alors là aussi, j'ai quelques chiffres. Donc si vous allez sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et d'Innovation, il y a des statistiques, des bilans sur les dernières campagnes de recrutement de maîtres de conférences. Donc là, sur la campagne de l'année dernière, il y a eu 74 postes publiés pour la section 27, donc pour pour tous les postes d'enseignants-chercheurs en France, pour 2667 candidatures effectuées par 602 candidats, dont 27% de femmes. Donc ça veut dire que si on fait un calcul de moyenne, il y a à peu près 36 candidatures pour chaque poste. Au final, sur les 74 postes publiés, 73 ont été pourvus, et la plupart d'entre eux via le concours. Il y en a quelques-uns en mutation et en détachement, mais l'immense majorité, c'est par le compos. Donc en passant, voilà, comme je vous expliquais avant, par galaxie, etc. Le nombre de recrutés rapporté au nombre de candidats, ça nous donne un pourcentage de 12,1%, alors qu'au niveau national, toutes sections confondues, on est à 13,2%. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus difficile en informatique qu'autre chose. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des sections qui qualifient autant de candidats que de postes. Donc, il y a des sections pour lesquelles le nombre de recrutés sur le nombre de candidats est bien plus élevé. Ça n'est pas la stratégie au niveau de la section 27. Au niveau de la section 27, tous les candidats qui méritent d'être qualifiés, enfin qui semblent aptes à devenir enseignants-chercheurs, obtiennent la qualification indépendamment du nombre de postes. Donc ça explique que le ratio nombre de recrutés, nombre de candidats, soit moins élevé que dans certaines autres sections qui n'ont pas la même stratégie. Et sinon, en ce qui concerne les femmes, donc on a 27% de femmes candidates et 26% de femmes recrutées. Et donc sur ce site-là, vous avez énormément d'informations, de statistiques sur ce qui concerne toutes les sections et puis ce qui concerne chaque section individuellement. Alors un dernier point avant de terminer, quoi faire entre le moment où on a son diplôme de doctorat en poche et le moment où on peut candidater sur un poste de maître de conférence? Alors, il y a plusieurs stratégies possibles. Donc, vous avez compris que pour devenir enseignant-chercheur ou maître de conférence en informatique, il faut justifier d'une expérience d'enseignement et d'une bonne activité de recherche. Donc, selon ce que vous avez pu faire ou pas pu faire pendant votre doctorat, vous pouvez choisir, une fois que vous avez votre doctorat, de renforcer ou d'acquérir une expérience d'enseignement qui aurait pu vous manquer pendant le doctorat. Et dans ce cas-là, une possibilité, c'est d'avoir un contrat d'ATER, c'est-à-dire attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Là, il y a possibilité d'avoir un poste complet, c'est-à-dire 192 heures équivalent TD, ce qui est l'équivalent d'un poste de maître de conférence, ou alors un poste d'ATER à mi-temps. Alors attention, sur les candidatures ATER, il y a certains postes qui sont publiés sur Galaxy via l'application Altair, mais il y a aussi pas mal d'établissements qui gèrent les candidatures ATER indépendamment de Galaxy. Donc pour être ATER, il faut vraiment suivre, vous renseigner dans les établissements pour ne pas louper les calendriers pour candidater. Alors si vous êtes ATER, c'est possible d'être 2 années ATER. Il faut veiller quand même à maintenir si possible une activité de publication, puisque quand vous chercherez à candidater pour un poste de maître de conférence, votre activité de publication, elle sera aussi examinée, bien entendu. Si vous voulez profiter du temps après votre doctorat pour approfondir des résultats de recherche ou pour diffuser des résultats de recherche ou développer de nouveaux thèmes, vous pouvez chercher à faire un postdoc, donc être chercheur postdoctorant. Là, il y a des durées de contrat qui sont variables. Et là aussi, petit conseil, c'est penser à envisager, par exemple, des vacations d'enseignement. L'idée étant de garder au maximum une activité d'enseignement et de recherche jusqu'à ce que vous candidatiez pour le concours de maître de conférence, puisque ce sont ces éléments-là qui seront évalués. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, j'espère que ce n'était pas trop rébarbatif. L'idée, c'était que vous ayez toutes les informations aussi sur le papier. Donc, je vous souhaite un bon choix dans vos choix de carrière. Et je suis prête à répondre aux questions, du coup, qui peuvent être remontées.
Merci, Bénédicte.